Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qui l'engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
Mmh. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 18 mars 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Une Syrie forte bénéficiera à la sécurité et à la stabilité de la région, a dit le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Plusieurs morts et blessés lors d'un raid des forces d'occupation israéliennes sur l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Et après sa victoire électorale, le président russe dénonce le manque de démocratie en Occident. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Akbar Ahmadian, affirme qu'une Syrie forte bénéficierait à la sécurité et à la stabilité de la région. Lors d'une réunion avec le ministre syrien de la Défense, Ali Mahmoud Abbas, à Téhéran, dimanche 17 mars, Ali Akbar Ahmadian a déclaré que l'expansion des relations mutuelles servirait les intérêts des deux parties et de toutes les nations de la région. Il a salué les grands acquis réalisés par le Front de la Résistance dans la lutte contre Israël lors de sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza et a déclaré que beaucoup de choses devraient être faites pour le soutenir. Le responsable sécuritaire iranien a également salué la résistance du gouvernement et de la nation syrienne en tant que membre de l'axe de la résistance face au régime sioniste, un groupe terroriste. Le ministre syrien de la Défense a pour sa part remercié l'Iran pour son soutien et souligné l'importance de développer davantage les relations tous azimuts entre les deux pays. Faisant référence à la guerre menée par Israël et Gaza au cours des 5 derniers mois, le ministérien a indiqué qu'après l'opération de la tempête d'Al-Aqsa, lancée par les groupes de résistance palestiniens à Gaza contre Israël, le monde n'est plus le même qu'avant. Tous les développements dans la bande de Gaza ont révélé la vulnérabilité d'Israël face au monde, a-t-il indiqué. Les forces d'occupation israéliennes ont attaqué lundi matin 18 mars le complexe médical Al-Shifa dans la ville de Gaza sous de lourds tirs aériens et d'artillerie. Le correspondant d'Al-Mayadin à Gaza a rapporté que des drones de combat israéliens avaient ouvert le feu sur des Palestiniens à proximité de l'hôpital, tandis que des avions d'attaque israéliens lançaient des ceintures de feu sur la région. Le correspondant a également mentionné que des navires de la marine israélienne avaient tiré vers les environs du complexe médical Al-Shifa, confirmant que plusieurs personnes ont été tuées en martyr et que quelques autres ont été blessées à cause de cette agression israélienne qui ne connaît pas de répit. Il a noté qu'il y a des coups de martyr dans les locaux du complexe qui ne peuvent pas être atteints en raison de l'assaut israélien en cours. Les forces d'occupation encerclent des centaines de personnes déplacées, de patients, d'équipes médicales et de journalistes à l'intérieur de l'établissement. Le correspondant d'Al-Mayadin a rapporté qu'un incendie s'était déclaré dans le bâtiment de chirurgie spécialisé à l'intérieur du complexe médical Al-Shifa à la suite des frappes aériennes. L'agression militaire d'Israël contre Gaza a jusqu'à présent tué au moins 31 645 Palestiniens et blessé 73 676 autres. Le régime a également imposé un siège complet sur le territoire, coupant le carburant, l'électricité, la nourriture, les médicaments et l'eau à plus de 2 millions de Palestiniens qui y vivent. La résistance irakienne affirme avoir mené une autre attaque de drones contre la base aérienne du régime sioniste sur le plateau du Golan occupé. La résistance islamique en Irak, qui regroupe les mouvements antiterroristes du pays, a annoncé le lundi 18 mars dans un communiqué sur sa chaîne Telegram avoir frappé par drone une base aérienne du régime sioniste dans le Golan occupé sans nommer la base. Les combattants de la résistance islamique en Irak, à l'aube d'aujourd'hui, lundi, ont ciblé avec des drones une base aérienne qui abritait les drones de l'occupation sioniste dans le Golan occupé, souligne le communiqué qui indique que les opérations contre l'entité occupante se poursuivraient et doubleraient pendant le mois sacré de Ramadan. Cette nouvelle frappe fait partie de la deuxième phase de ces opérations contre le régime israélien et en soutien au peuple palestinien à Gaza, dans un contexte de génocide en cours à travers le territoire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a réitéré que son pays était opposé à tout projet pour déplacer de force les Palestiniens de la bande de Gaza. Le président égyptien a déclaré dimanche 17 mars lors d'une réunion avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que l'Égypte n'autoriserait pas le déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire, après que des rapports suggèrent que le régime israélien cherche toujours à expulser les habitants de Gaza dans le cadre de sa guerre brutale contre le territoire. Le président Sisi a souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et réaffirmé le rejet par l'Égypte du déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire, indique un communiqué de la présidence égyptienne à l'issue de la réunion. Des rapports des services de renseignement israéliens divulgués au début de la guerre contre Gaza suggérer que les responsables du régime cherchaient à mettre en œuvre un plan visant à déplacer de force des centaines de milliers de Palestiniens de Gaza vers des camps de tente dans la région voisine du Sinaï en Égypte. Le Caire a montré son rejet catégorique de ces projets tout en renforçant la sécurité le long de ses frontières pour empêcher tout débordement du conflit depuis Gaza. La rencontre entre Sisi et von der Leyen a eu lieu dans le cadre d'un sommet égypto-européen au Caire, dont beaucoup espèrent qu'il pourrait faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza via l'Égypte. Le président russe Vladimir Poutine a prononcé son premier discours public après avoir une nouvelle fois assuré la présidence grâce à une victoire écrasante. Vladimir Poutine est sorti vainqueur de l'élection présidentielle russe grâce à une victoire éclatante qui lui a permis d'obtenir l'écrasante majorité des voix après 3 jours d'élection. S'adressant à ses partisans à son siège électoral dimanche soir 17 mars, Poutine a exprimé sa gratitude au peuple russe pour sa participation, soulignant que le résultat des élections favoriserait l'unité et la force au sein de la société russe. Il a souligné l'importance de ce triomphe électoral dans la consolidation du tissu sociétal russe et le renforcement de sa résilience. Il a exposé les principales priorités de son administration pour l'avenir, à la tête desquelles se trouve la guerre en Ukraine. Il a aussi abordé les affaires internationales et critiqué le concept occidental de la démocratie. « La démocratie est une imposture en Occident », a-t-il estimé. Le patron de Solar Group, filiale de Rostelecom, Igor Lyapunov, a révélé samedi que le premier jour des élections russes, plus de 90 000 cyberattaques ont visé les portails électoraux en provenance d'Ukraine et d'Amérique du Nord. Il a déclaré que le nombre sans précédent de cyberattaques indique que l'Occident collectif se bat contre la Russie. Elles proviennent d'Ukraine et d'autres endroits d'Europe occidentale ainsi que d'Amérique du Nord, a-t-il précisé. Alors que les bureaux de vote pour l'élection présidentielle russe se clôturent, un sondage à la sortie des urnes mené par le Centre de recherche sur l'opinion publique russe a révélé que le président Vladimir Poutine est en tête avec une écrasante majorité de 87,8% des voix. Le candidat à la présidentielle, Nikolaï Kharitonov, a obtenu 4,6% des voix, tandis que Vladislav Davankov a obtenu 4,2%. Leonid Soltsky est en queue de peloton, avec 3% des voix. On estime que 1,2% des bulletins de vote ont été déclarés nuls, selon le sondage effectué à la sortie des urnes par le Centre de recherche sur l'opinion publique russe. Le vote s'est déroulé sur 3 jours, du 15 au 17 mars. Il s'agissait de la première élection présidentielle russe depuis la réforme constitutionnelle de 2020. La réforme avait imposé une limite de 2 mandats pour tout président. Cela a également annulé les anciens mandats de Poutine, lui permettant de se présenter à nouveau. Et le vice-président du conseil présidentiel libyen, Abdullah Al-Lafi, a souligné dimanche le soutien du conseil aux efforts déployés par la mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, pour faire progresser l'organisation des élections nationales. Al-Lafi a tenu ses propos lors d'une rencontre à Tripoli avec Abdoulaye Batili, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la MANUL, selon un communiqué publié par le conseil. La rencontre a permis de discuter de l'impasse politique actuelle et des efforts visant à convoquer une conférence nationale inclusive réunissant toutes les parties prenantes au processus politique, indiqué le communiqué. Pour sa part, Abdoulaye Batili a réitéré son soutien aux efforts déployés par le Conseil présidentiel pour parvenir à la réconciliation nationale. La Libye n'a pas réussi à organiser les élections générales initialement prévues en décembre 2021 en raison de désaccords entre partis au sujet des lois électorales. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le ramadan à Gaza est marqué par la campagne de mort, de destruction et de famine israélo-américaine. Le ramadan, l'un des mois les plus sacrés pour les musulmans du monde entier, allie introspection spirituelle et vie familiale au sein de la communauté, notamment lors de la rupture du jeûne appelé iftar. Mais pour les habitants de Gaza ravagés par la guerre, ce mois sera différent de tous les précédents. Gaza subit une guerre génocidaire marquée par des bombardements, un siège et la déshumanisation des Palestiniens. Cette déshumanisation transforme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées en cibles légitimes de la brutalité coloniale sioniste. Les images déchirantes de Gaza sont devenues des symboles de la cruauté de l'entité coloniale. Ce ramadan, les habitants de Gaza sont confrontés à la famine en raison de la politique de famine délibérée du régime occupant, dont le seul objectif est de rendre Gaza pratiquement inhabitable. La stratégie visant à rendre Gaza inhabitable et ingouvernable implique de provoquer un chaos absolu sur le territoire et de créer une situation de famine à grande échelle. Selon cette stratégie coloniale toxique, si aucune force politique n'est capable de maintenir un minimum de stabilité gouvernementale sur le territoire, celui-ci devient totalement dépendant de l'aide humanitaire. Dans le cas de Gaza, la stratégie de famine conçue par les occupants coloniaux sionistes est complétée par la distribution de l'aide humanitaire par les États-Unis, qui est décrite par beaucoup comme un spectacle et renforce la dépendance du territoire palestinien, le laissant dans un état de dépendance, le maintenant dans un état d'un chaos permanent. La famine imposée par Israël a coûté la vie à au moins 27 personnes, pour la plupart des enfants, qui sont mortes de malnutrition et de déshydratation. Les images de corps mal nourris sont devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Même si les grands médias occidentaux continuent de réduire ces pertes humaines colossales à de froides statistiques. Le génocide et la famine à Gaza sont soigneusement conçus pour causer du tort et créer des conditions atroces pour la population locale. Nous ne pouvons pas parler de justice et encore moins construire une société juste, alors que Gaza et le reste de la Palestine continuent de souffrir du génocide et de la famine. Tel doit être le message pendant le Ramadan.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Débat, ici dans les studios de Presse TV, toujours dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant le discours de Nasrallah, discours du leader de la résistance libanaise en cette première semaine du mois du Ramadan. Je vous propose tout d'abord de regarder le reportage que nous avons préparé à cet effet et par la suite nous ferons venir nos deux invités que vous connaissez, qui sont avec nous depuis le début des attaques du 7 octobre, c'est-à-dire Madame Aïssa Armidani et Monsieur Bernard Cornu. Tout de suite donc, je vous propose notre reportage.
Hezbollah a souligné que l'armée israélienne qui mène une guerre génocidaire contre la bande de Gaza est épuisée sur tous les fronts. Israël a perdu la guerre à Gaza, même s'il entre dans la ville méridionale de Rafah, et son armée est épuisée sur tous les fronts. C'est ce qu'a réaffirmé mercredi 13 mars le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah. Et de poursuivre, de hauts experts ennemis reconnaissent les pertes stratégiques d'Israël. Israël a lancé la guerre contre Gaza le 7 octobre. Après l'opération Tempête d'Al-Aqsa, une opération surprise menée par des groupes de résistance côtiers contre les territoires occupés de la Palestine en représailles à l'intensification des crimes commis par le régime de Tel Aviv contre les Palestiniens depuis des décennies. Plus de 31 000 de Gazaouis, dont la plupart sont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tués jusqu'à présent dans des frappes israéliennes. Gaza qui résiste, combat et perdure dans une scène proche du miracle qui étonne le monde. C'est la culture même du Coran et c'est une promesse divine pour le monde entier, a réaffirmé le secrétaire général du Hezbollah libanais. À ce jour, l'armée israélienne reconnaît officiellement la mort de 590 officiers et soldats dans ses rangs depuis le 7 octobre 2023, dont 248 tués dans des combats terrestres. Dans une autre partie de ses propos, Nasrallah s'est exprimé en ces termes. Le nombre de ces morts est très important et bien supérieur à ce qui a été annoncé. Nous annonçons nos martyrs en direct, mais l'ennemi cache ses morts et cela a un impact sur l'armée israélienne. Le secrétaire général du Hezbollah a précisé que sur le front nord, il existe un profond secret concernant les pertes en termes de soldats, de véhicules militaires et autres. La chaîne de télévision libanaise Al-Mayadin a récemment rapporté que les opérations de la résistance palestinienne contre les forces israéliennes dans le nord de la bande de Gaza avaient confirmé la présence de la force de la résistance et démenti les allégations de responsables israéliens qui prétendent que le régime sioniste a imposé un contrôle sur le nord de Gaza. Après 5 mois, l'armée israélienne manque de personnel et souhaite recruter 14 500 renforts et elle voudrait même recruter les Haredim israéliens ultra-orthodoxes, a-t-il ironisé. Il a également évoqué les tentatives du régime de Tel Aviv d'envahir la ville de Rafah au sud de Gaza, où la majorité des 2,4 millions d'habitants du territoire côtier ont trouvé refuge pour échapper aux répercussions de la guerre. Le régime sioniste prétend qu'en menant cette invasion, il aura réalisé son ambition d'éliminer le mouvement de résistance palestinien Hamas, dont le siège se trouve à Gaza. Nasrallah a cependant vivement rejeté cette allégation. De hauts experts ennemis reconnaissent les pertes stratégiques d'Israël et aujourd'hui, au 6e mois, Netanyahou affirme que si nous n'allons pas à Rafah, nous avons peur de la guerre, a-t-il affirmé. Le Golan occupé, le nord de la Palestine occupée, frappé par le Hezbollah. Nous disons à Netanyahou que même si vous allez à Rafah, vous avez peur de la guerre et vous ne pouvez pas éliminer le Hamas ou la résistance malgré tous les massacres, a-t-il redit. L'un des signes de défaite de l'ennemi est que l'occupation négocie avec le Hamas au cours du 6e mois de guerre, a déclaré Nasrallah. Avant d'ajouter, le Hamas négocie aujourd'hui au nom de la résistance et nous à partir d'une position de faiblesse, cela fixe les conditions.
Nous revoilà donc sur le plateau de Presse TV. Tout de suite, donc, nous allons souhaiter la bienvenue à nos deux invités. Madame Aïssar Midani, bonjour, ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci de votre invitation et bonjour à tous les téléspectateurs de Presse TV.
Bonjour Monsieur Bernard Cornu, toujours ravi de vous avoir avec nous sur la question palestinienne et sur les autres questions. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, bonjour à toutes et à tous.
Alors, Madame Aïssar Midani, nous allons commencer par vous. Je ne sais pas si vous avez regardé notre site internet cette semaine, mais nous avons eu un invité à Téhéran cette semaine, Maître Devers, qu'on connaît très bien, puisque c'est le juriste qui est en tête concernant la question palestinienne devant les deux cours, dont la Cour pénale internationale. Et nous avons eu donc le discours de Monsieur Nasrallah concernant donc la situation en Palestine et surtout le fait que le gouvernement sioniste qui provoque ces actes terroristes et génocidaires serait à bout de souffle. Ce n'est pas la première fois que le Hezbollah s'est exprimé ainsi. On sait aussi qu'au niveau international, il y a eu une mobilisation énorme, encore jamais vue de la part d'avocats, de la part de militants, mais également de la part de politiciens. Qu'est-ce que vous en pensez au jour d'aujourd'hui quand vous entendez chaque individu s'exprimer sur la situation en Palestine et surtout sur la cause palestinienne?
En effet, en fait, aujourd'hui, le soutien à la cause palestinienne, il est très important dans le monde entier. Effectivement, et pas seulement au niveau des organisations de masse et au niveau de la rue, mais aussi au niveau de pays qui soutiennent la Palestine, qui ont rompu leurs relations avec l'État fantoche israélien. Et d'autres aussi, les pays aussi qui arrêtent de... est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, j'entends un écho et je n'ai pas l'impression d'être bien.
On vous entend très, très clairement.
Ah bon, d'accord. Parce que moi, j'entends un écho. OK, bon, bah, je continue alors. Je suis désolée. Mais effectivement, donc, il y a beaucoup de pays, tous les pays de BRICS, qui appellent aussi pour couper les relations avec Israël. Qui le font. Pas mal de pays de l'Amérique latine ont rompu les relations avec l'État fantoche israélien. Des pays aussi... En fait, il ne reste comme soutien réel que les États-Unis et puis certains pays européens qui continue, mais même ceux-là, les pays européens, malgré la pression américaine, ils prennent des distances vis-à-vis de cet État d'Israël qui commet, non seulement commet le génocide, il persiste et signe, en fait, après 6 mois, pour achever son action génocidaire contre le peuple palestinien, prétendant que de toute façon, il va finir par éradiquer Hamas. Je voudrais signaler aussi le soutien fantastique de tous les pays du Yémen, du Liban, de la Syrie et de l'Irak. Aussi, on a vu aujourd'hui des millions de personnes, encore une fois, manifester dans les rues au niveau du Yémen, qui continuent et qui appuient très fortement la politique d'interdiction et de boycott d'Israël et d'interdiction de toutes les de la politique yéménite en fait dans l'interdiction de la mer Rouge à tout ce qui vient vers Israël et qui part d'Israël, mais aussi disent que de toute façon ça va être indien. Donc en fait on voit qu'effectivement, et puis le Pakistan qui aujourd'hui, la population pakistanaise soutient les Palestiniens très fortement, et je voudrais dire quand même tous les peuples du monde, y compris le peuple américain, français et britannique, ils soutiennent très fortement la résistance palestinienne.
Oui, on a vu beaucoup de militants s'excuser au nom de leur pays, s'excuser au nom de leur pays en Angleterre. On a vu des militants s'exprimer, on a vu des Américains s'exprimer sur le fait qu'ils s'excusaient de ce que leur propre État avait décidé de faire au monde entier, puisque ça ne commence pas au 7 octobre, hein, de le rappeler, hein, les accords de Balfour, c'est ça, la vraie histoire de la Palestine. C'est lorsqu'il n'y a pas d'autres pays pour faire contre-pouvoir sur les pays impérialistes. C'est d'ailleurs l'interview que nous avons eu la chance d'avoir avec Maître de Verre, où il explique que c'est là que tout s'est joué finalement. Ce n'est pas ces dernières années que la cause palestinienne s'est jouée. Monsieur Bernard Cornu, je vous vois donc hocher de la tête, être d'accord. Vous êtes un militant, on vous a déjà présenté ainsi sur notre chaîne Presse TV. Alors, on a vu le Nasrallah avoir un discours à la fois géopolitique et tacticien, et à la fois un discours également religieux, pour rappeler donc les textes religieux et dire qu'il y a de l'espoir malgré le nombre de morts, parce qu'on rappelle qu'on parle de la cause palestinienne, mais on parle également de morts. Derrière la cause palestinienne, on parle d'orphelins, on parle de femmes enceintes sans aide sanitaire, on parle de beaucoup de choses quand on parle de la situation palestinienne, et on ne l'oublie pas, il faut garder le côté humain du discours. Et donc Nasrallah a eu ce discours. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous avez lu ou entendu donc le discours de Nasrallah de cette semaine, qui se fait également la première semaine du mois du Ramadan?
En cette période et dans son rôle, Sayed Nasrallah est tout à fait dans son rôle de tenir des propos religieux, de faire des références au Coran. Moi-même étant dans un pays laïque et moi-même étant de culture laïque, même si j'ai une culture religieuse assez approfondie envers l'islam et envers les religions chrétiennes, je pense qu'il faut analyser cette guerre et cette occupation, cette agression dans des termes laïques et en fonction du droit international. Vous avez cité Maître Gilles Devert qui a fait depuis des années un travail très approfondi, très courageux, très international, avec des centaines d'autres avocats qui partagent ce souci de mettre en application le droit international. Et je voudrais citer aussi une Française, une juriste internationaliste dans le droit international, Madame Chemillier-Gendreau, qui a fait le 26 février une très forte plaidoirie, très bien argumentée, très bien référencée, pour montrer que l'État israélien est tout à fait dans son illégalité, dans l'égalité du droit international, dans son occupation et dans sa répression de tous les Palestiniens, que ce soit à Jérusalem-Est, en Cisjordanie ou à Gaza. Écoutez cette plaidoirie qui est très riche et très percutante, très courageuse en plus, elle a été donnée à la Cour internationale de justice, comme c'est prévu par la procédure de la Cour internationale, qui est, je le répète, un organe prévu par les Nations Unies dès le départ, comme le secrétaire général, comme le Conseil de sécurité, comme les autres organes subsidiaires des Nations Unies.
Merci, monsieur.
Et on ne peut pas, pour compléter, là où j'ai un petit désaccord avec Saïd Nasrallah, c'est que je ne pense pas qu'il y a une défaite. Il y a des défaites de tous les côtés, il y a des morts de tous les côtés. En revanche, c'est sûr qu'il y a eu une remise de la question de Palestine, de ce vieux drame de Palestine, sur le devant des médias, dans les opinions publiques, et ce qui a permis effectivement aux opinions publiques de se manifester et de témoigner devant nos dirigeants, qui sont en retard dans cette perception, que le problème palestinien doit être résolu de façon définitive, de façon juste et durable, et selon le droit international qui a été énoncé mais qui n'est pas appliqué par la force. Et je voudrais rappeler que plusieurs personnes de haut rang ont dit récemment qu'il fallait imposer l'application du droit à l'État israélien, alors que l'État israélien a toujours dit « nous avons négocié avec les Palestiniens, rien ne se passe, rien n'avance ». En fait, tout ceci est hypocrite parce que chaque fois le gouvernement israélien est en position de force, enferme les meilleurs dirigeants palestiniens dès qu'ils sentent qu'ils sont rétifs, qu'ils sont bons négociateurs, qu'ils sont défendre le droit palestinien longtemps. Ils ont tous ces aspects. Et donc, la solution doit être exposée par l'extérieur. Et en fait, le droit international, par une résolution sous chapitre 7, comme ça a été appliqué seulement à l'Irak, à Daesh et à la Libye, pourrait servir à appliquer le droit international dans les meilleurs délais et de façon juste et durable, et sur tous les éléments critiques, les frontières, les garanties de sécurité, les solutions temporaires pour le retour des réfugiés, les droits à compensation, le financement de ces compensations. Tout peut être résolu si nos gouvernements ont un peu de lucidité et un peu de courage.
Merci, monsieur Cornu. Mais j'aimerais donc répliquer, madame et Denis, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je suis d'accord avec vous, mais là, on parle de colonisation. Donc, c'est une entité pour nous. Nous, les Iraniens, on ne reconnaît pas donc cet État. Plusieurs pays dans le monde entier, d'ailleurs, ne reconnaissent pas l'entité sioniste comme étant un État. C'est donc une entité colonisatrice. Et quand on regarde d'un point de vue on avait parlé de Gilles Devers, et lui, il nous l'a même dit dans son interview, ce qu'il a le plus utilisé, c'est la jurisprudence. Parce que finalement, dans les lois internationales, il y a peu de contenu. Donc c'est la jurisprudence qui leur a permis d'avancer petit à petit vers le fait que rien que la Cour internationale de justice reconnaisse que la Palestine est un État. Donc on pouvait le juger et le prendre comme un État et non pas juste une population. Et lorsqu'on parle de colonisation au niveau de la jurisprudence, donc au niveau du passé, les États qui ont colonisé ont dû partir. Et on voit, je vais prendre l'exemple de l'Algérie, qui est finalement le plus approximatif par rapport à la Palestine, puisque l'Algérie est un État, était complètement un territoire français, contrairement aux autres pays colonisés, qui étaient bien une colonisation, alors que dans la Constitution, l'Algérie était bien inscrite. Et on a vu finalement la France devoir partir et partir. Donc quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec les propos du leader du Hezbollah, lui, il dit que l'entité sioniste risque de ne plus exister, parce qu'en fait, l'entité sioniste n'était pas un État à la base. Il est apparu en colonisant. Madame Issaridani, qu'est-ce que vous en pensez des propos que je viens de tenir ?
Je suis entièrement d'accord avec vos propos, parce que de toute façon, c'est une colonisation. C'est une colonisation qui vise à chasser la population de son pays, qui vise à s'approprier les terres et les richesses du pays, en éliminant, en tuant purement et simplement tous les ressortissants qui ne veulent pas se soumettre à cette colonisation. D'où cette guerre, c'est pas une guerre, c'est un véritable génocide. L'armée israélienne ne fait que tuer. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec M. Cornu où il dit qu'il n'y a pas de défaite, bien sûr. Netanyahou est défait et cette entité israélienne est complètement défaite. Parce que d'abord, elle n'a réalisé aucun de ces objectifs qu'ils ont cités, en fait, au début, qu'ils ont fixés objectivement, d'une part, enfin au début. Et puis, d'autre part, c'est une armée qui n'a fait que tuer des civils et des femmes et des enfants, des mines. C'est une armée qui tue, mais ce n'est pas une armée qui combat, ça d'une part, deuxième part. Et troisièmement, parce que aussi, je crois que l'image et Israël qui prétendait être un État et un État qui est le plus démocratique du monde, etc., avec une armée humaniste, etc. Bon, tout ça, ça a été complètement défait au niveau des yeux, aux yeux du monde. Le monde entier a commencé à comprendre la vraie problématique de l'occupation israélienne de la Palestine, parce que à force de traiter Israël comme un État, beaucoup de gens et beaucoup de personnes et beaucoup d'États ont pensé que c'était effectivement un État. Et c'est là où la manipulation médiatique et puis le faussaire de l'histoire qui fait que finalement on impose au peuple une histoire qui n'est pas la véritable histoire. Maintenant, avec cette bataille du peuple palestinien, on découvre la vraie histoire. Et ceux qui découvrent la vraie histoire ne reviendront pas en arrière pour dire c'est un État qu'il faut accepter, qu'il faut intégrer, etc., et les pauvres malheureux, d'autant plus que les Juifs eux-mêmes se démarquent du sionisme de plus en plus, se démarquent de cet État de plus en plus. On a vu quand même dans le monde entier, surtout aux États-Unis et beaucoup en France, hier il y avait un rassemblement des Juifs en France, en fait, qui disent « nous, on n'a rien à voir avec tous ces crimes qui sont commis en notre nom, on n'a rien à voir avec le sionisme, nous sommes des citoyens, et puis voilà ». Et ça, c'est très important, en fait, c'est le fait que ce mouvement grandisse et ce mouvement arrive à percer le mur du silence et à percer le mur des médias mainstream qui l'ont occulté pendant des années. Eh bien, ça, c'est très important. Et à mon avis, j'espère qu'on arrive à un point de non-retour, puisque le monde, effectivement, a découvert la réalité de cet État fantoche d'Israël.
Merci,
et va aider, effectivement, à la décolonisation totale et va aider, effectivement, à l'indépendance de la Palestine.
Merci, Madame Aïssar Midani. Alors, Monsieur Bernard Cornu, je vous laisse répondre, puisque j'avais directement répondu à vos propos. Alors, si je vous remets dans le contexte sur le fait que la jurisprudence aide beaucoup le droit international et les décisions internationales, alors au vu du fait que l'entité sioniste n'existait pas auparavant et qu'elle doit se retirer des terres en cas de défaite, comment il pourrait survivre? D'où le fait des propos du leader de la résistance libanaise, excusez-moi, Monsieur Cornu.
Oui, comme l'a dit Mme Medani, l'image d'Israël s'est complètement détériorée. Et donc, les gens sont beaucoup plus lucides maintenant. Et comme j'ai dit, la colonisation, dans le cadre d'un accord international imposé, toute la colonisation des territoires de 60 prises en 67 devra cesser. Ça a été dit très clairement par Mme Chemillier-Gendreau, ça a été dit par M. de Villepin et d'autres. Le problème dans le temps... Il est improbable qu'un État israélien, en tout cas les gens qui le protègent, la puissance américaine, qui a des intérêts stratégiques dans la région, puisse renoncer à l'existence d'un État israélien sur ses limites de 67. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques décennies, peut-être une ou deux générations, il serait plus souhaitable que la Palestine historique, les deux États créés, le plus tôt possible, enfin pour le deuxième, le 194e, la Palestine, puisse arriver à être un État laïque, binational ou bicommunautaire, et qu'il soit un seul État. Ce serait l'idéal. Mais je pense de façon réaliste qu'il faudra beaucoup de temps et de maturation des idées internationales et de l'évolution du système international d'application du droit international, qui actuellement ont les règles du compte de sécurité dans lequel les grandes puissances ont un pouvoir extraordinaire. Si ceci change à terme, une solution beaucoup plus optimale, c'est-à-dire un État unique, laïque, démocratique, pluricommunautaire, pourra s'installer dans la Palestine historique. Mais je pense que pour être réaliste, face à la puissance, extrême puissance américaine du dollar et de sa puissance, de son déficit budgétaire énorme, de sa puissance en communication, de sa puissance aussi en service secret, puisque le service secret américain dispose de près de 600 milliards de dollars par an, ils peuvent manipuler tous les médias du monde s'ils le veulent, ils peuvent acheter tous les dirigeants du monde s'ils le veulent. Ceci donc nécessitera du temps pour que le système mondial d'application du droit puisse changer lui-même.
Merci beaucoup, Monsieur Bernard Cornu. Merci beaucoup, Madame Aïssa Midani, pour votre participation du débat qui était très riche aujourd'hui, avec un autre participant qui était derrière, avec les propos tenus lors d'une interview de Monsieur Gilles Devert, qui était avec nous donc à Presse TV pour quelques jours, avec les propos tenus également par le leader de la résistance libanaise. Nous espérons donc que la situation palestinienne prenne fin. Comme tous, on espère que cette situation devienne de l'histoire et que les Palestiniens aient leur État. Je vous remercie de nous avoir suivis, de nous suivre. N'hésitez pas à voir ou revoir nos débats sur notre site internet ou nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat, ici, dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Voyage dans l'univers mystique de Molav. Le jeu de l'amour. À l'époque de Bayazid Bastami, un musulman exhorta un jour un infidèle à se convertir. Il lui dit « Pourquoi ne rejoindrais-tu pas le troupeau de ceux qui font leur salut en découvrant la lumière de l'islam ?» L'autre répondit « Si c'est de la foi du cheikh Bayazid que tu parles, je n'en aurai certes pas la force. » Je suis loin de la religion et de la foi, mais je les respecte. Ma bouche est fermée d'un sceau, mais j'adhère secrètement à sa foi. Si la foi dont tu parles est la vôtre, je n'ai aucune envie de la partager. Car quiconque est attiré par la foi perd inévitablement son intérêt pour elle en vous voyant. De votre foi, il ne reste que le nom. C'est comme si vous appeliez les gens à chercher asile dans le désert. Le feu de l'amour de la foi s'éteint à votre contact. Leïla. Des ignorants dirent un jour à Majnoun : Leïla n'est pas si belle que ça. Dans notre ville, il en est des milliers qui la surpassent en beauté et en raffinement. Majnoun répondit : L'apparence est une cruche, la beauté est le vin. Dieu m'offre du vin sous cette apparence. À vous, il offre du vinaigre dans la même cruche, afin que vous abandonniez l'amour des apparences. La main de Dieu dispense le poison et le miel dans la même cruche. La cruche est bien visible, mais pour les aveugles, le vin n'existe pas. Moisin. Il était un muezzin dont la voix était très criarde. Il avait pour tâche d'appeler les fidèles à la prière, mais chaque fois qu'il commençait à chanter, on lui disait « Par pitié, arrête-toi, car ton chant ne fait qu'accroître nos divergences. » Un jour, un infidèle arriva avec des vêtements de soie, une bougie et du halva, ainsi que toutes sortes de présents, et demanda à voir ce muezzin. « Sa voix est si belle, dit-il, qu'elle procure le repos à l'esprit. » Les autres dirent alors, « Comment une telle voix peut-elle procurer le repos ?» L'homme répondit, « J'ai une fille qui est très belle. Or, un jour, elle fut tentée d'embrasser la foi. Je tentai de l'en dissuader, mais en vain. Cette passion pour la foi l'a possédée si fort que mon chagrin empirait de jour en jour. Rien ne parvint à la faire changer d'avis, si ce n'est le chant de ce moisin. Car, en l'entendant, ma fille s'écria, « Quelle voix ! Mes oreilles en sont toutes effrayées. De ma vie, je n'ai entendu pire chant. » Sa sœur lui dit alors que c'était l'appel à la prière des fidèles. Elle n'en voulut rien croire et se renseigna de tous côtés. Quand elle fut convaincue que c'était bien exact, l'amour pour la foi se refroidit dans son cœur. Mes craintes se dissipèrent et je retrouvai le sommeil. J'ai donc trouvé le repos grâce à cette voix et j'apporte ces cadeaux au moisin en remerciement. On l'emmena devant le moisin et lui dit « Accepte ces cadeaux, car grâce à toi, j'ai trouvé le repos. Je suis ton serviteur. » Le pauvre. Un pauvre plein d'insolence vit un jour passer des esclaves richement vêtus d'habits de soie et de ceintures dorées. Il leva les yeux au ciel et dit « Ô mon maître, ces gens-là sont bien soignés par leur maître. C'est de cette manière que tu devrais t'y prendre avec moi qui suis ton esclave. » En effet, cet homme était en haillons. Il avait faim et tremblait de froid. Cet état était la raison de son insolence. Il était un intime de Dieu et reconnaissait ses faveurs. Si les courtisans peuvent se permettre d'être insolents avec le sultan, ne te crois pas autorisé à agir de même, car tu n'as pas la même intimité avec le maître. Tu désires une ceinture dorée, mais Dieu t'a donné mieux que cela, une taille pour recevoir cette ceinture. Tu veux une couronne, mais Dieu ne t'a-t-il pas donné une tête ? Or, un jour, il advint que le propriétaire des esclaves fut accusé par le sultan d'une faute grave. Ces esclaves furent emprisonnés et torturés, afin qu'ils avouent l'emplacement du trésor de leur maître. On les maltraita ainsi un mois durant. Mais par fidélité envers leur maître, aucun d'eux ne vendit la mèche. Un beau jour, le pauvre dont nous parlions reçut un message dans son rêve qui lui disait « Tu peux aller apprendre auprès de ces esclaves comment se conduit un véritable serviteur. » Le chat et la viande. Un homme avait une femme acariâtre, sale et menteuse, qui gaspillait tout ce que son mari ramenait à la maison. Un jour, cet homme, qui était fort pauvre, acheta de la viande pour régaler ses invités. Mais sa femme la mangea en cachette. Au moment du repas, l'homme lui dit « Les invités sont là. Où sont la viande et le pain ? Sers mes invités. » « Le chat a mangé toute la viande, » répondit la femme. « Si tu en veux, retourne en acheter. » L'homme prit alors le chat et le pesa sur sa balance. Il trouva que l'animal pesait 5 kilos. Il s'exclama, « Ô fermenteuse, la viande que j'ai achetée pesait-elle aussi 5 kilos ? Si je viens de peser le chat, où est la viande ? Mais si c'est la viande que je viens de peser, alors où est passé le chat ? » Quarante pièces d'argent. Un homme possédait 40 pièces d'argent, et chaque jour, il jetait l'une de celles-ci à la mer afin de maltraiter son égo. Cet homme était un grand guerrier et ne connaissait pas la peur face à l'ennemi. Quand il recevait une blessure, il la pansait, puis s'en retournait combattre. Au cours d'une guerre, après avoir reçu une vingtaine de coups de lance et autant de flèches, il perdit ses forces et tomba à terre. Son âme rejoignit alors celle des fidèles. Ne considère pas cette mort comme formelle, car le corps est comme un outil pour l'esprit. Quand son cheval est mort, il ne peut plus avancer. Bien des gens ont versé leur sang dans l'apparence, mais ont rejoint l'autre monde avec leur ego bien vivant. L'outil est cassé, mais le bandit reste vivant. Le corps est ensanglanté, mais l'ego rayonne de santé. Bien des égos de martyrs sont morts en ce monde et se promènent vivants cependant. L'esprit a attaqué, mais le corps était sans épée. L'épée est bien la même épée, mais l'homme n'est pas le même homme, et c'est cette apparence qui est étonnante. Quand tu changes ton ego, sache que l'épée du corps est dans la main de Dieu.